France Inter.
Sur France Inter, il est 19h. Bonsoir avec nous, le journal, c'est Hélène Philly. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. De nouvelles manifestations de soutien à la cause palestinienne sur plusieurs sites universitaires, des instituts de sciences politiques, blocage, sit-in. La ministre de l'Enseignement supérieur convoque une réunion jeudi avec les présidents d'universités, tandis qu'au Proche-Orient, Israël met la pression et un ultimatum au Hamas. L'actualité, c'est encore un 1er mai moins fourni attendu demain dans les rues. La campagne des européennes, pour la première fois, Ursula von der Leyen ouvre la porte à une alliance avec l'extrême droite. Nous sommes sur les terrains de foot où les arbitres seront sonorisés la saison prochaine. Et puis à Stuttgart, en Allemagne, le coût de la gare déraille, la facture dépasse les 11 milliards d'euros. Au téléphone sonne le rapport sur les enfants et les écrans. Vos témoignages 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce sont de petits groupes à chaque fois, mais ils commencent à se multiplier dans les instituts de sciences politiques et sur plusieurs sites universitaires. Des étudiants mobilisés pour la cause palestinienne, une trentaine ce matin à Saint-Étienne, une quinzaine à Dijon, à Grenoble, ils étaient une centaine sur les voies du tramway et 150 dans la cour de Sciences Po Lyon où était Christophe Vincent.
Ils se sont rassemblés dans la cour de l'Institut d'études politiques, dans le calme, des étudiants à Sciences Po ou en fac, certains coiffés d'un keffier. Beaucoup sont venus spontanément, comme Kylian et Jade.
L'idée, je pense, que c'est s'inscrire dans un mouvement qui a été impulsé à Paris, à Sciences Po Paris et à Paris-Sorbonne hier et puis les jours qui ont précédé. L'idée, je pense, de ces étudiants, elle est animée par une seule conviction, c'est celle de la solidarité et de l'humanisme. Et c'est un mouvement qui concerne les étudiants de Sciences Po en premier lieu, mais comme vous pouvez le voir, c'est un lieu public, donc chacun peut venir s'y joindre.
Et ça n'a pas mené à des tensions extrêmes. Et l'important, c'est surtout de faire entendre la parole de la voix palestinienne au sein de nos débats et discours.
Étudiants à Sciences Po, Angèle, Yann et Leïla souhaitent que le mouvement monte en puissance.
Déjà qu'il y ait un rassemblement dans la cour et qu'il y ait autant de monde, ça veut dire quelque chose.
C'est que le début et donc s'il y a un blocus de prévu, on le rejoindra avec plaisir pour que ça ait plus d'impact. Peut-être que ça fasse réagir au plus haut.
Je pense que ça pourrait avoir un vrai impact si c'était bloqué pendant nos examens et ça serait bien.
Un autre rassemblement a eu lieu en fin d'après-midi devant l'université Lyon 3. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Les campus de Tolbiac et de Sciences Po à Menton sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Après l'occupation des locaux, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce une réunion jeudi avec les présidents d'université pour prendre des mesures contre ces blocages. Alors qu'au Proche-Orient, Israël donne au Hamas jusqu'à demain soir pour répondre à l'offre de trêve, une proposition de 40 jours. En échange de la libération d'otages, plus de 130 seraient toujours retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Des milliers de personnes manifestent chaque semaine à Tel Aviv pour qu'on ne les oublie pas. Michel Paul, bonsoir.
Bonsoir Hélène,
bonsoir
à tous. Vous
êtes en direct de Jérusalem, Michel, le premier ministre israélien qui préfère menacer aujourd'hui avec cet ultimatum et toujours la promesse d'une offensive sur Rafah.
Oui, alors Hélène, c'est toujours l'attente d'une réponse du Hamas ici. Elle pourrait se prolonger, indique-t-on, jusqu'à demain soir. C'est une forme d'ultimatum qui est lancée par Israël. À ce stade, en tout cas, l'équipe des négociateurs israéliens ne se rend toujours pas au Caire pour finaliser le plan en deux parties qui a été proposé par Israël. Première étape de ce projet d'accord, une trêve de 6 semaines, la libération de 33 otages pour raisons humanitaires en échange de centaines de détenus palestiniens. Ensuite, ce sera un arrêt des combats sans limite dans le temps et la libération des autres otages. Israël aurait renoncé également à son projet d'empêcher le retour des réfugiés gazaouis vers le nord de l'enclave palestinienne. Alors, ce sont des éléments qui ne sont pas confirmés de sources officielles en Israël, mais qui suscitent en tout cas des réactions très fortes de l'extrême droite israélienne qui menace de faire tomber le gouvernement. Pour le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, il s'agit d'un accord désastreux qui présente même un danger existentiel pour Israël. Et face à ces déclarations, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rétorque qu'Israël entrera dans la ville de Rafah avec ou sans accord de trêve avec le Hamas.
Michel Paul en direct de Jérusalem, le chef de la diplomatie française qui a dit aujourd'hui à Benjamin Netanyahou qu'une offensive à Rafah est une mauvaise idée, ça ne va pas régler les choses. Au contraire, juge Stéphane, ces journées en visite en Israël.
Et l'on pourrait aussi entendre des slogans pro-palestiniens demain dans le cortège du 1er mai.
Traditionnel défilé organisé par les syndicats pour défendre les droits des travailleurs, le ministère de l'Intérieur s'attend à des rassemblements moins fournis que pendant la réforme des retraites, entre 120 000 et 150 000 dans toute la France avec des cortèges plutôt familiaux, Ariane Grissel.
Même s'il y a encore cette année des sujets de mécontentement comme la réforme de l'assurance chômage ou les mesures budgétaires, la mobilisation sera effectivement bien loin des 800 000 participants recensés l'an dernier en pleine réforme des retraites par le ministère de l'Intérieur. Cette année, 15 à 30 000 personnes sont attendues à Paris, 5 000 à Lyon, 4 000 à Toulouse, autour de 2 000 à Bordeaux ou Montpellier, tandis que les rues de Rennes ou Strasbourg devrait voir défiler environ 1500 manifestants. Dans la capitale, les services de renseignement s'attendent à la présence de 400 à 800 militants décidés à s'en prendre aux symboles du capitalisme et au mobilier urbain, dont certains venus de l'étranger, des membres de groupes d'ultra-gauche également présents dans des villes comme Lyon ou Grenoble. Mais dans l'ensemble, les cortèges s'annoncent nettement plus apaisés et festifs que l'an dernier. Des défilés qui pourraient servir de tribune aux militants pro-palestiniens et aux opposants aux Jeux Olympiques. Plusieurs appels sont lancés sur les réseaux sociaux par différents collectifs pour dénoncer un rendez-vous présenté comme une catastrophe sur le plan social et écologique.
Ariane Grissel, ce 1er mai qui est le premier de 4 jours fériés du mois de mai, un mois à trous, pas toujours simple à organiser pour les entreprises. Christophe Beck, France Bleu, Belfort, Montbéliard.
Sur le chantier du nouveau centre culturel de Montbéliard, on s'interroge sur ce mois de mai en forme de gruyère.
Il y a toujours eu plus de jours fériés que le reste, mais bon, là, avec tous les ponts, je vois, nous, la semaine prochaine, on bosse lundi-mardi, quoi. Puis on reprend cinq jours tranquilles chez nous. C'est quand même pas mal. Pour les salariés, c'est bien. Le patron, un peu moins, je pense.
Pour le bien de leur entreprise, certains salariés acceptent de sacrifier quelques-uns de ces jours chômés.
On s'arrange avec notre patron pour pouvoir travailler un peu plus, quoi.
Alain, chef de chantier pour l'entreprise de menuiserie Viro, à Colombier, en Haute-Saône.
Ah oui, parce que ça fait pas beaucoup de travail hein, dans un mois de mai. Hein. D'accomplir un peu le travail un peu partout, parce que ça fait du retard.
À la ferronnerie d'Arc, 1538, qui emploie 5 salariés à Vieux-Charmont, comme dans beaucoup de PME, on a pris les devants.
C'est l'anticipation, et voilà, c'est le leitmotiv en fait, du mois de mai.
Irène Mère-Ballet soulève une autre spécificité du mois de mai, qui s'ajoute à ces ponts successifs.
Mais la petite particularité que l'on doit vivre tous les ans avec le mois de mai, c'est aussi le solde des congés. Et qui vient là avec l'avantage de tomber les mercredis, c'est que quand il y a des personnes qui vont poser 2 jours, ils vont se retrouver avec une semaine complète de congés.
Des patrons embarrassés, mais des salariés heureux.
Oui, non, là, c'est une bonne année. Ça tombe bien.
Un reportage signé Christophe Beck. Cette fois, ils prennent la parole et en nombre, une centaine d'hommes du monde de la culture, dont le réalisateur Jacques Audiard, Reda Kateb, Soi Marlow ou encore Mathieu Amalric signent cette tribune dans le magazine Elle pour apporter leur soutien au mouvement MeToo. Il est révoltant que le théâtre et le cinéma servent de couverture à des abus qui n'ont rien à voir avec l'art. Écrivent-ils un texte initié par le mathématicien Michel Brou. Roué, compagnon d'Anouk Grimbert, selon le magazine. Quand Ursula von der Leyen brise un tabou, la présidente de la Commission européenne, candidate à sa réélection, ne s'interdit plus une alliance avec l'extrême droite, le groupe de l'italienne Giorgia Meloni, celui de Marion Maréchal aussi. Ça dépendra du résultat des élections, dit Ursula von der Leyen, et c'est la première fois qu'elle le formule ainsi, même si l'hypothèse circule depuis un petit moment en coulisses, Frédéric Saïs.
Ce serait un renversement historique. Jusqu'ici, au Parlement européen, la droite formait des majorités de compromis avec les socialistes et les centristes. Mais Ursula von der Leyen anticipe un nouveau rapport de force avec une poussée des nationalistes, en particulier de ce groupe qui rassemble les proches de Marion Maréchal et de Giorgia Meloni, la très droitière première ministre italienne, mais aussi les ultra-conservateurs espagnols et polonais. Ce groupe pourrait devenir, selon les sondages, la troisième force politique du Parlement européen. Voilà pourquoi Ursula von der Leyen n'exclut aucune hypothèse, d'autant plus prudente qu'elle est affaiblie. L'ancienne ministre allemande, contestée pour sa pratique solitaire du pouvoir, ne fait pas l'unanimité, ni chez les centristes, ni même au sein de sa propre famille politique, la droite conservatrice. Si elle veut à tout prix rempiler à la tête de la Commission européenne, elle risque donc de ne pas avoir vraiment le choix quant à ses alliés.
Et dans ce débat, la droite française n'a que peu d'influence. Les sondages ne lui offrent pour le moment qu'entre 6 et 8 sièges. Et comment faire coexister toutes les nuances de droite au sein de la liste emmenée par François-Xavier Bellamy. La liste dévoilée aujourd'hui confirme des indéboulonnables, Nadine Morano et Brice Hortefeux en position éligible. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Et ça fait grincer des dents.
Oui, qu'ils étaient nombreux chez LR à espérer les voir partir. Les deux anciennes gloires de Strasbourg, comme les appelle un député. Brice Hortefeux, Nadine Morano, deux anciens ministres, époque Nicolas Sarkozy, que certains croyaient sur un siège éjectable, reconduit pourtant devant d'autres députés sortants, jugés plus sérieux et travailleurs en interne. La décision est celle du patron du parti, Éric Ciotti. Le choix d'une liste n'est jamais facile, se défend son entourage. On a tenté de trouver un équilibre entre renouvellement et les sortants. On a consulté. Brice Hortefeux notamment était soutenu par Laurent Wauquiez. Nadine Morano, elle se hisse à une jolie sixième place et à l'entendre, elle n'a certainement pas à s'en excuser.
Alors là, des commentaires en disant ils n'ont pas travaillé ou ci ou ça, ça c'est faux. Parce que moi, par exemple, je siège dans la commission qui se réunit le plus au Parlement européen, qui est la commission des libertés. Vous savez, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment moins, c'est normal. Certains sont attachés à mon franc-parler. J'ai une vision pour l'Europe. Je considère que mon travail et ma personnalité est reconnue dans ma famille politique. Et ben, je m'en réjouis.
Il n'empêche, ces nominations ont provoqué une avalanche de critiques. Le message est catastrophique, s'étrangle une figure LR. On veut récupérer les électeurs de Macron et là, on envoie des repoussoirs. D'autant qu'un autre nom a fait tousser en interne. Place numéro 5, un inconnu, Laurent Castillo, surnommé dans le parti le cardiologue de Nice, inconnu mais proche d'Éric Ciotti, qui passe donc devant des eurodéputés sortants, relégués en zone de danger au-delà de la 10e place.
Merci Marie Mollet. Deux infos à l'étranger, à Londres. Un homme armé d'une épée s'en est pris à plusieurs personnes, rapidement arrêté par la police, qui exclut un acte terroriste. Un garçon de 14 ans a été tué. Et puis le G7, c'est une première, se met d'accord sur une date pour la fin des centrales à charbon. Il faut que ce soit fait d'ici à 2035, sauf si les pays, si ces centrales disposent d'un système de captage de carbone. Et puisqu'on parle de ce qui change et dans le bon sens, M6 se lance dans la mode éco-responsable. Après avoir fait un carton avec les reines du shopping, la chaîne lance une nouvelle émission. On refait la mode à partir du 15 mai sur la plateforme dans sa version longue et dès maintenant, une pastille courte tous les jours à 19h35 sur cette idée. Rien ne se jette et tout se transforme. Alexandra Akoun.
Nous allons vous montrer comment donner une deuxième vie à votre garde-robe.
Oubliez la fast fashion, ces vêtements quasi jetables devenus fléaux écologiques. Avec On refait la mode, présenté par Erika Moulet et l'influenceur Sega Kanouté, l'idée c'est de proposer des solutions simples et vertueuses pour limiter l'impact de nos vêtements sur la planète. Commencez par faire le tri par exemple.
La première chose à faire, c'est de vider entièrement son placard et de faire quatre tables.
Après des années d'émissions magnifiques, portées notamment par Christina Cordula, c'est un véritable changement de braquet pour M6. Fonchon Le Boulchi est la directrice du Pollen Limited en charge des opérations spéciales.
En tant que chaîne qui avons en notre temps poussé, on va le dire, à la fast fashion, avec les émissions de Christina, avec Nouveau Look, et là, on a pris conscience que c'était plus du tout dans l'air du temps.
Et pour être sûr de distiller les bons conseils, la chaîne s'est associée à ReFashion, éco-organisme de la filière textile qui ne jure que par la règle des 5 R.
Les 5 R qui sont un moyen mémotechnique très simple de faire bien les choses.
Sandra Baldini, directrice marketing de ReFashion.
Réparer, réutiliser, recycler, réduire et restyler. Et nous, on est ravis que ces messages-là se diffusent le plus largement possible.
Pour l'instant, seules 8 émissions ont été tournées, mais si l'audience est au rendez-vous, On refait la mode pourrait revenir à la rentrée sur M6 de façon plus pérenne.
Les Français qui consomment de nouveau, la reprise est modeste, mais elle se confirme sur plusieurs mois grâce à de timides baisses de prix dans les supermarchés notamment. L'inflation ralentit encore 2,2% sur un an contre 2,3% en mars. Le produit intérieur brut progresse de 0,2% selon l'INSEE et le ministre de l'économie y voit le signe de la solidité, dit-il, de l'économie du pays.
Et voici une gare à 11 milliards d'euros.
Celle de Stuttgart, la 6e ville d'Allemagne. C'est l'un des projets les plus ambitieux du pays, mais aussi l'un des plus coûteux et controversés. Elle devait voir le jour en 2019, mais les travaux ne sont toujours pas terminés. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, et ses partenaires s'affrontent aujourd'hui devant les tribunaux pour savoir qui paiera la facture. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin, car les coûts de ce chantier pharaonique ont explosé.
Oui, à son lancement au milieu des années 90, le projet était estimé à 2,5 milliards d'euros, mais année après année, les coûts se sont envolés. 4,5 milliards en 2009, 6 milliards en 2011, 10 en 2022. La dernière estimation dépasse désormais les 11 milliards, soit 4 fois le montant de départ. La facture a enflé en fait au fur et à mesure que les travaux prenaient du retard, car sur le chantier, les difficultés se sont accumulées. La construction des colonnes qui doivent donner à la gare l'allure d'une belle cathédrale du 21e siècle a été plus compliquée que prévu, tout comme les opérations de forage et la numérisation. La Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande s'est tournée vers ses partenaires pour partager le surcoût, mais la ville, la région et l'aéroport refusent de payer davantage. La gare devrait être inaugurée fin 2025, vous l'avez dit, avec 6 ans de retard sur le calendrier prévu. Cela signifie que le chantier aura duré près de 16 ans, un nouveau record qui vient presque faire oublier les 14 années de construction de l'aéroport de Berlin. Quand elle sera enfin mise en service, la gare, qui ne sera plus un terminus mais une gare de transit, placera Stuttgart au cœur d'un axe ferroviaire Est-Ouest, 2500 km entre Paris et Budapest.
Sébastien Baer en direct de Berlin, une gare à 11 milliards d'euros à comparer par exemple avec le budget total des JO de Paris, 4 milliards 400 millions d'euros, construction d'infrastructures comprises. Le ministre de l'Intérieur annonce aujourd'hui qu'il y aura 1900 gardes-frontières pour renforcer la sécurité des aéroports et pour lutter notamment contre les taxis illégaux. Cette fois, c'est confirmé sur les terrains de football. Les arbitres seront sonorisés pour tous les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Et cela leur permettra d'expliquer en direct certaines de leurs décisions, Fanny Lechevestrier.
Avec un objectif, faire de la pédagogie et améliorer la communication entre le public et des arbitres bien trop souvent chahutés. Concrètement, l'arbitre allumera son micro pour livrer ses explications en direct sur des cas précis, après appel à l'assistance vidéo pour valider ou non un but, une position de hors-jeu, un pénalty ou sur une erreur d'identité dans l'attribution d'un carton, soit des interventions 2 à 3 fois par match en moyenne, un peu à la manière de ce qui se fait depuis longtemps en NFL, le championnat de football américain. Sur cet extrait, l'arbitre est au milieu du terrain, tourné vers les tribunes pour expliquer au micro sa décision. Tous les arbitres de Ligue 1 ont d'ores et déjà été formés pour s'adresser au public. Mais pourquoi pas une sonorisation tout au long du match qui permettrait d'entendre aussi à la télévision les échanges entre joueurs et arbitres, un peu comme au rugby. La Fédération française de football a jusqu'à maintenant toujours essuyé un refus de la part de la FIFA, l'instance internationale.
L'affiche de foot ce soir, c'est Bayern Munich Real Madrid, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h à Munich. Allez, on file à New York et pour parler d'Albi, la commune du Tarn, qui vient de s'offrir un spot de pub sur les écrans géants de Times Square. Rien que ça, 15 petites secondes pour vanter la beauté de la ville, attirer les touristes. L'idée est de Julien Estrada, le community manager de l'office de tourisme d'Albi. Il est fan de jeux de mots aussi, vous allez l'entendre, il raconte à Jra Mohamed.
C'est tout simplement un ami qui a fait son voyage en janvier dernier et qui souhaitait faire une surprise à sa compagne pour son anniversaire. Et donc, il a utilisé une application qui permet de mettre en avant, sur un court format de 15 secondes, une vidéo donc sur les écrans de Times Square pour la modique somme de $40. Et de suite, ça a fait tilt. Hein. On s'est dit pourquoi pas se lancer à l'aventure et de proposer une petite vidéo de 15 secondes sur les écrans de Times Square. Et donc, pendant ces 15 secondes, on a pu voir la cathédrale avec le palais de la Berbie, le pont vieux, et bon, on espère en effet recevoir peut-être des appels d'Américains qui auront vu ces quelques secondes et qui viendront découvrir Albi. Et en effet, Albi's Are For You, on assume totalement, c'est pour la petite référence, le clin d'œil à Friends, le Central Park, et voilà, en espérant que ça leur parle, et en tout cas nous dans la rime ça parle.
Non, vraiment.
On retient le conseil. 40 dollars les 15 secondes.
C'est pas cher.
Ça vaut le coup quand même.
Merci.
Je vous laisse là-dessus.
Je m'en vais le faire là tout de suite pour mes petits 40 dollars. Merci beaucoup. Hélène, vous reviendrez. Demain, on parle d'écran et d'enfants dans un instant sur France Inter et dans le téléphone sonne. Grâce à vos nombreux appels avec les deux présidents de la commission écran justement qui vient de rendre ses conclusions. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Callac, encore des pluies ce soir.
Oui, et des orages possibles aussi sur le nord-est et au nord de la Seine avec un risque de grêle. Il s'estompe progressivement dans la nuit. Demain, ce sera très agité, pluvieux sur une grande partie ouest et sud. Les pluies seront parfois copieuses de la Provence vers le Massif central et la Normandie. Elles prendront un caractère orageux pour l'après-midi. Des éclaircies appréciables reviendront tout de même sur la façade ouest. Sur les Alpes frontalières, beaucoup de neige au-dessus de 2000 mètres. La limite pluie-neige s'abaissera vers 1000 à 1500 mètres sur les Pyrénées. Sur le nord-est, jusqu'à la région parisienne et au Hauts-de-France, beaucoup de nuages, du soleil tout de même sur l'est de la Lorraine et l'Alsace. Et puis dans l'après-midi, des orages forts se déclencheront sur la Bourgogne-Franche-Comté avec de la grêle, des pluies importantes. Et ces orages remonteront vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes pour la soirée.
Et il fera plus frais sur l'ouest et sur le sud.
Oui, ça baissera sous les pluies. 10 degrés seulement à Tarbes demain après-midi, 13 à Bordeaux, 14 à Cherbourg, Nantes, Limoges, Toulouse, 17 à Bourges et à Marseille, mais 21 degrés à Paris, à Dijon, à Grenoble, 22 à Lille et encore 26 à Strasbourg.
Élodie Callac de Météo France, merci beaucoup.